Tropical.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Léa Pereira Zanuto, Rose Rall, bonne arrivée la famille. On n'est pas en grève à Couleur Tropicale, bien au contraire. Les auditeurs, leaders non plus, ils sont dans la génération consciente, la libre antenne de Couleur Tropicale. Ce soir encore, ça va être très chaud. Du chaud justement, en voici. Attention, vous risquez d'être, dérouté, décalé, déhanché, comme ça. De l'électro pour ouvrir le show afro de la radio, à l'instant Saint John pour Roses. C'est la version remix de ce hit signé Imam Beck. Enfin, Iman, c'est lui qui signe donc le remix. Spéciale recommandation. Alors justement, coup de projecteur sur Imam Beck. C'est un jeune DJ et producteur originaire de... Tic-tac, du Kazakhstan. Son nom est déjà très présent dans une bonne partie du monde grâce justement à ses mix et à ses remix. Avec Roses, Imam Beck a su conserver la force de la vibes trap du titre marié à l'électro. Changement de ton, enfin pas tellement. Voici deux voix magiques. Écoute ça.
Why a boy is simple, are they hustle, them they laugh, are they suffer, them they laugh, oh, follow me to Galilee, I know my God is able, follow me to Galilee, Papa pour me bless you from your care too, no so, I'm say are they sing for English, you know the year, now you're banging on your head. Many people where I have turned to enemies. I see the pray for my enemies. Let me deny you, Colabo. Baba see Ronaldo. Now we'll be king for jungle. And we go grind till infinity. And I'm a conquer news where let me throw it. Chaco see the man lit that story. Seven. Chaco this. Chaco that. What is it? What is that? Where are you? Where to buy?
African best, see they don't know.
Come follow me to Galilee. Like
say I been a Jesus. Lady talk say I di high. Meanwhile your girl is simple. I di suffer, they di laugh. I di hustle, they di laugh. Oh, follow me to Galilee. I know my God is able. Follow me to Galilee. Papa pour me blessings from your kettle. Never ever story. How you manage? Know all my story. Gasha do this, gasha say that. Were you here when I was doing that? When I saw the people there. When you were different, they go talk say you the prang like that. When I saw the people there. When you get out, they go try to cut your head too. All about kind, kind you steady throw it. Gasha said they can leave that story.
Follow me, to Galilee. I say I be like Jesus. Then they talk say I dey high. Me why your boy is simple. I dey hustle, them dey laugh. I dey suffer, them dey laugh. Follow me to Galilee. I know my God is able. Follow me to Galilee. Papa pour me blessings from your kettle.
Chip and Shaq, featuring Gasha pour Galilée. Gasha, l'une de nos artistes préférées, toi-même tu sais, et Chip and Shaq, artiste de grand talent. On comprend pourquoi, une fois son diplôme en poche, gagné à l'université, il a décidé de s'adonner totalement à la musique. À 29 ans, 30 ans le 27 février prochain, Chip and Shaq est une des références de la pop camerounaise. Solidarité avec les victimes des inondations au Cameroun, nous en parlerons plus amplement la semaine prochaine.
Couleur, couleur, trop.
Musical est phénoménal. Couleur tropicale, danger.
C'est quoi encore?
Couleur tropicale avec Claudicia.
Hello la famille, c'est bien moi, Bizice, a.k.a. King Mosakoli. Je vous présente en exclusivité mon dernier titre solo là sur Couleur tropicale avec tonton Claudicia, toi-même, tu sais. Et voilà, donc abonnez-vous déjà très vite sur mon compte YouTube afin d'avoir l'exclusivité du clip au début de mois de décembre.
Exclusivité.
Mona sele boti pas sukuna mela masanga bakoko yo kané tutana yangona yango kané tutana yangona yango
le Biz Ice. Solola, nouveau son, nouveau pont entre le Congo et le monde lorsque l'on parle de musique urbaine. Solola, exclusivité couleur tropicale, c'était Biz Ice.
Squat, 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 TMJ. Ouais, ben c'est Mercer sur couleur tropicale avec Chine et Claudie.
Squat.
Salut, c'est Lucina et Jean.
En direct de couleur tropicale.
Ici, c'est un an, juste pour les amours.
Avec Claudie Siard.
Claudie Siard, on est là en mode gang, 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 gang.
Retrouvez Couleur Tropicale sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez également dialoguer avec moi sur mes réseaux sociaux privés et officiels. On vous attend. C'est un des arrangeurs stars, je devrais dire superstars, de l'afropop, que l'on parle de coupé décalé, et aujourd'hui de cette rencontre entre l'une des plus populaires musiques ivoiriennes et l'afrobeat, il reste toujours un patron. Baby Philippe est à l'honneur. Baby Philippe sera en concert le 29 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. L'artiste était de passage à Paris et Kayla Soulet-Siard l'a rencontré. Reportage.
Vous avez trop attendu, non ? Voici le son.
Avec un des princes, des rois, je dirais même, du coupé décalé qui est de passage à Paris, Baby Philippe. Comment on passe du gospel au coupé décalé? Et comment a réagi ton entourage quand t'as dit « bah moi, je me mets au coupé décalé » ?
C'est juste un choix de carrière musicale. Au départ, c'était un peu difficile pour eux d'accepter parce qu'on a taxé le coupé décalé d'une musique un peu pauvre dans le début. Donc c'était difficile, mais après ils ont vu ce que j'ai pu apporter et ils ont validé.
Voici ce qu'on appelle le coupé décalé. Coupé décalé, c'est notre décalé coupé. La France est-elle le décalé, moi je travaille, moi je
Baby Philippe, j'ai vu que tu mélangeais plein de genres de musique, donc musique traditionnelle, électro, rap, coupé décalé. Pourquoi c'est important pour toi de mélanger tout ça?
Déjà, en première intention, c'est de ne pas faire du réchauffé et de ne pas copier sur les autres. Sinon, faut dire que j'écoute beaucoup de musique de tous les pays, surtout en Afrique, il y a de la ressource musicalement. Et donc, je m'inspire un peu de tout.
Je veux danser.
Baby Philippe, pourquoi à un moment tu t'es dit qu'il fallait créer ton propre label?
Dans le temps, les artistes avaient du mal à se retrouver sur les plateformes de vente de musique. J'ai fait mon label pour pouvoir être sur toutes les plateformes telles que iTunes, Spotify, tout ça. Et puis après, c'est plus en indépendant qu'on peut se faire une place au soleil.
Et est-ce que à ton avis, c'est plus compliqué pour un artiste africain de s'exporter comparé à un artiste européen ou américain?
C'est un peu difficile quand t'es pas connu, ça c'est normal. On va dire que tout début est difficile, faut se battre.
Ça fait des années que je fais danser l'Afrique entière. Oh. Ça fait des années que je fais danser la Côte d'Ivoire. Oh. Je suis le Ernesto JJ de la nouvelle génération. Oh. Je suis Baby Philippe, Mister Baby P, la nouvelle légende. Oh.
Baby Philippe, quel est ton point de vue sur le monde culturel en Afrique aujourd'hui?
Je constate que perso, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de soutien. On espère que ça va changer.
Et comment toi, tu t'engages justement pour changer tout ça?
Là, je suis sur plein de projets perso. Créer, je vais dire, un griffe des disciples parce que après Baby Philippe, il faut qu'il y ait des successeurs qui vont pérenniser ce que je fais. Et donc, dans ce sens-là, je suis en train de monter un projet pour pouvoir réaliser ça.
On voit de plus en plus que les artistes de rap français copient un peu le style des artistes de coupé décalé. Qu'est-ce que ça te fait?
Ça me fait plaisir de savoir qu'on inspire beaucoup, beaucoup de nouveaux artistes. À nous de travailler davantage pour qu'on soit encore plus copiés.
Ben merci beaucoup, Baby Philippe, et on espère que tu reviendras nous voir dans Couleur Tropicale.
Couleur Tropicale, je fais un gros big up. L'ambiance est musicale,
Salut Mister Baby P. Big up pour Papa Claudicia. On est ensemble, mon vieux. On le track, man. You know the system. Bouyaka.
Couleur tropicale.
La famille, ce vendredi 6 décembre dans Couleur tropicale pour le 7e numéro du Talk Show, nous recevons 16. Et avec lui, nous découvrirons son nouvel EP baptisé
Holy 16. Hey.
Ça va être chaud. Hein.
C'est très chaud.
Faut nous faire voyager. Hein.
On va voyager.
Yeah.
Le phénoménal. DJ.
Avez-vous préparé ce qu'il faut pour la danse?
On le mix.
Attends, vous savez que ce soir, c'est la discothèque.
Tout le monde sur la piste. Hey, de la plus grande discothèque d'Afrique. Allez, tout le monde sur la piste. On va danser. Après, c'est Génération Conscience.
Oh ma chérie, s'il te plaît, viens par ici. Moi, j'ai des trois trucs à te dire. Ah, viens par ici. Oh ma chérie, faut jamais les écouter. Ils veulent juste nous diviser. Ah, nous séparer.
le phénoménal en direct de Cotonou. Il vous a fait bouger sur les hits de Nihi Koussi Berou featuring Excellente avec le titre Catapulte, DJ Kenny featuring Fanico pour Sapology, Nicanor featuring Inos B pour L'Afrique en A. Elle a quoi? Toi-même tu sais ce qu'elle a. Et puis à l'instant la voix de Sessimé, notre Sessimé béninoise et internationale avec Tololi. Bon anniversaire à l'un des pionniers du rock'n'roll. Oh non, exceptionnel Richard Wayne Pennyman. Mais c'est sous le nom de Little Richard que le monde en a fait une star planétaire à une époque où la ségrégation était le quotidien des Afro-Américains aux États-Unis. Little Richard est né le 5 décembre 1935 à Macon, Macon en français, aux États-Unis. Little Richard a donc, oui c'est ça, 86 ans.
Cool, 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 tropical.
La libre antenne.
Claudio, il y a le téléphone pour toi. Hein.
33 6 37 42 62 24.
Toujours avancer.
Jamais.
Les auditeurs leaders auront tous les pouvoirs dans un instant. Certains sont déjà là. Franck, depuis Calavi, bonne arrivée.
Oui, bonsoir, président.
Diabaté, depuis Abidjan, bonne arrivée.
Merci, Claudie.
Avant de vous donner la parole, messieurs, je voudrais vous poser une question, vous soumettre un quiz et tout à l'heure vous faire entendre une chanson. Êtes-vous prêt à répondre à ma question?
Oui.
Oui.
Alors, on est évidemment toujours dans l'actualité, à l'actualité historique. Écoutez bien. Il est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans dans sa ville de Johannesburg. De qui s'agit-il? Trois propositions. Johnny Clegg, Nelson Mandela ou Eugène Terre-Blanche?
C'est Nelson Mandela.
Boum! Franck?
Oui, c'est Nelson Mandela.
C'est bien, oui. Franck qui a répondu. Bah oui, bonne réponse. Nelson Mandela, Madiba, exactement. Diabaté? Non,
oui,
tu ne savais pas? Tu n'avais pas la réponse?
Pas.
Oui, mais tu n'as pas été suffisamment rapide.
Bon. Oui.
Je voudrais vous faire écouter une chanson. Cette chanson est très clairement raciste. Elle a été écrite pour des enfants, évidemment par des adultes, et interprétée par des enfants. On a fait écouter ça à au moins deux ou trois générations d'enfants. Écoutez bien le texte parce que je voudrais vraiment avoir votre avis. Écoutez bien.
Mamadou avait mal aux dents, sa maman lui dit mon doudou, lave tes dents un peu plus souvent, les caries t'auras plus du tout. Mamadou mange dentifrice sur une tartine de pain d'épices.
Bon, on arrête. Vous avez entendu, donc Mamadou, hein, Mamadou qui ne se brosse pas les dents parce qu'il fait des tartines de pain d'épices avec le dentifrice. Et puis Mamadou qui a des poux, donc il faut qu'il se mette la tête. Son père lui dit, mets la tête dans la terre et comme ça les poux vont disparaître. Enfin, c'est hallucinant. Que pensez-vous de ce type de chanson que beaucoup de gamins ont chanté et chantent? Que pensez-vous de ça, Franck?
Je pense que c'est un message pour une considération.
Ben ouais. Diabaté, c'est une chanson française. Hein.
La jeune génération.
Diabaté, tu voulais ajouter?
Oui, Claudie, je veux dire juste que le problème a été le mal est soulevé et on ne propose pas des solutions concrètes.
Oui.
Voilà, parce que quelqu'un qui a des poux dans les cheveux, je pense que ce n'est pas le fait de les frotter à terme de mettre autre chose dessus qui va faire partie des poux.
Oui, non, mais évidemment, mais c'est pour dire à quel point le racisme de la chanson, c'est-à-dire on fait passer donc tous les Mamadou et tous les Noirs, c'est ce que la chanson veut dire, hein, pour des écervelés et leurs parents plus écervelés encore, puisqu'ils leur donnent des conseils qui sont évidemment de mauvais conseils. Vous vous rendez compte que cette chanson-là est très populaire en France, chez les enfants.
C'est dommage.
Mais voilà.
D'accord.
Franck, tu souhaitais parler de politique béninoise et de réforme.
Merci Claudie. En fait, le président Talon est venu en 2016 et en venant, il a bel et bien dit qu'il est venu pour faire des réformes politiques. Et depuis qu'il a commencé ces réformes, il y a trop de polémiques aussi. Parce que quand nous sommes rebelles pour une novembre, c'est un chômage et d'abord pour que la révision a été révisée, notre constitution du moins a été révisée à l'Assemblée nationale.
Oui. Et donc
En septembre passé, on avait initié un dialogue politique qui a écarté les opposants dessus. Donc moi, je souhaitais désormais que de faire une large consultation.
D'accord, donc des partis, donc une consultation des différents partis.
Il n'y aura plus trop de polémiques.
C'est pas évident, hein. Lorsqu'on est dans l'opposition, même lorsque les bonnes propositions viennent du camp présidentiel, on a tendance à tout critiquer. Mais ce n'est pas le propre du Bénin, hein, c'est dans tous les pays du monde, hein, ça se passe comme ça. Hein.
Oui. Bon.
On a bien compris, donc on est sur une... il faut avoir une volonté que les questions qui engagent le pays, qui engagent la nation, eh bien, fassent l'objet d'une consultation des différents partis qui composent effectivement la nation béninoise. C'est ce que tu nous dis. Voilà. Merci Franck, en tout cas, d'avoir été avec nous. On a quelques problèmes de ligne avec lui. Diabaté, alors, tu voulais parler d'armes. Et les armes ne sont pas fabriquées en Afrique. En tout cas, pas toutes celles qui sont utilisées sur le continent. Nous t'écoutons.
Oui, Claudie, en fait, je profite de l'antenne de RFI pour attirer l'attention de nos politiques africains sur la question du terrorisme. À chaque fois, dans les colloques avec les anciennes colonies, ils débattent toujours des questions de terrorisme. Eh bien, ils ne posent pas les problèmes véritables de la source d'où viennent les armes. Je pense que si ces terroristes n'ont plus d'armes, c'est clair que quelque part, le combat va s'arrêter. Et donc, je vais profiter pour dire à cette génération que nos politiques africaines sont plutôt des propres d'amis avec l'Europe. Parce qu'on est tous unanimes que peut-être quelques armes traditionnelles qu'on trouve sur le continent, mais ces armes nous viennent carrément de l'Europe. Et c'est vraiment ça, c'est la question. Et quand on regarde la politique africaine, c'est vraiment dommage. Tu penses que c'est un domaine bien progressiste. Je prends par exemple le cas de l'éducation en Côte d'Ivoire.
Oui.
C'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on dit un enfant qui écrit par exemple « je mange ». Sans eux, on lui apporte le point parce que le son y est. C'est vilain. Dans 10 ans, qui devient ces nouveaux leaders, ces intellectuels.
Alors, je voudrais juste te dire, Diabaté, tu disais que le terrorisme faisait donc effectivement la relation entre les armes, le terrorisme. Juste dire qu'au départ, le terrorisme, ce n'est pas l'apologie des armes, mais bien d'une idéologie, que l'on soit d'accord ou pas d'accord d'ailleurs. Et puis effectivement, il y a les armes. Et c'est ce que tu nous disais, hein, je résume, l'Afrique, en tout cas les différents pays touchés, ne fabriquent pas des armes et que ces armes sont bien vendues par des pays, alors des pays occidentaux, mais pas seulement, hein, pas uniquement, des pays asiatiques également. Juste rappeler qu'au sommet de Sochi, Vladimir Poutine a quand même parlé également a vanté les mérites de l'industrie d'armement russe, en disant « achetez nos armes » aussi.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est un club d'amis.
Oui.
Parce que je pense que quand nos dirigeants africains vont à ce genre de rencontres, c'est clair que chacun défend sa cause.
Oui.
Parce que je ne peux pas comprendre, par exemple, que pendant que le terrorisme vit dans la sous-région telle qu'au Mali, à côté de nous ici, de la Côte d'Ivoire, il y a des Maliens qui sont là, surtout, j'appelle peut-être le gouvernement et ses ministres, ils attendent que peut-être de faire de grandes déclarations. Mais pendant ce temps, quand ils se retrouvent à des grandes réunions, on ne voit pas véritablement qu'est-ce qu'ils disent. Parce que moi, je veux, par exemple, qu'on dise clairement, et sur ces terroristes qu'on arrive peut-être à tuer, d'où viennent peut-être ces armes ou qui possèdent ces éléments.
D'accord.
C'est ça, c'est. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise, il y a eu l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'armes, même si c'est un trafic d'armes. Bon, voilà. Donc, c'est aussi, je pense que c'est aussi l'une des questions qu'il faut débattre. Et puis, ça pourra peut-être permettre à nos technocrates et nos leaders de trouver des solutions de mettre fin à ce fléau qui ronge là.
Merci beaucoup, Diabaté, pour cette intervention. Bonjour. Merci d'être un éditeur leader, être dans la génération consciente.
Je vous en prie, Claudie.
Jean, Hatsang, bonne arrivée Jean.
Bonsoir Claudie.
On en a parlé hier dans Couleur Tropicale, l'expulsion d'une de tes compatriotes, Nathalie Yamb, qui au moment où nous parlons est probablement encore en Suisse, et tu souhaitais revenir justement sur cette expulsion. Nous t'écoutons.
Elle a dit que c'est à un point sensible qui concernait surtout les Français, et donc la réaction a été immédiate. Et qui nous a surtout rappelé aussi l'expulsion de l'ambassadrice quoi, de l'Union africaine aux USA, qui avait aussi évoqué le pacte signé par les colonies françaises pour suivre bien leur colonisation. Donc quand elle fait son discours lors du sommet de Sochi, c'est tout à fait évident que dans le pays de M. Adolf, Alassane Ramon Ouattara, qui soutient ardemment le franc CFA et qu'on se permet d'y toucher, et disant encore dans son pays, on comprend bon, toutes les raisons. Là, elle a franchi le rubicon et quoi, tout petit qu'on les pousse, quoi.
Juste deux choses. Il y a toujours, moi, avec le temps, je supporte de moins en moins le fait que l'on infantilise beaucoup trop les responsables, qu'ils soient politiques en Afrique ou du secteur économique ou intellectuel ou les artistes, lorsqu'ils sont d'Afrique, qu'ils soient infantilisés en disant « oui, mais c'est la France ou les Américains ou les Anglais ou les Chinois qui ont décidé d'eux et nous courbons les Chines facilement ». Il y a une décision qui a été prise. Alors, le dessous des cartes, ni toi ni moi ne le connaissons. Mais ce que nous savons, c'est qu'une décision a été prise par une autorité. Cette autorité est ivoirienne. Et donc, je pense qu'il faut peut-être, à mon avis, ne pas partir dans d'autres analyses en se disant, en se posant la question, pourquoi les autorités ivoiriennes ont expulsé Nathalie Yamb. À ton avis.
Mais toujours est-il que M. Claudie, que face à cette expulsion, il y a une raison à cela.
Bien sûr.
La raison est due à la réalité que nous connaissons.
Bien sûr.
Oui, et qui suite au discours qu'elle a tenu. Le problème, c'est que, M. Claudie, nous ne sommes pas en train d'infantiliser l'autorité ou alors un pays. Mais le problème, c'est que la réalité des exactions françaises en Afrique sont là, et c'est visible aux yeux de tout le monde, sauf que certains de nos dirigeants refusent de voir cela. Et je veux aussi rappeler par là le discours qu'a tenu Mme Nathalie Lebord de Chaumont.
Oui.
Elle dit bien que c'est la résultante du franc CFA en Afrique, c'est la mauvaise gouvernance, le maintien de ceux-là qui respectent encore ce que dit le colon français au niveau des États. Et puis, dans ça, c'est quoi la pauvreté, la corruption, tandis que ceux qui sont là maintenus par cet État français ne font que s'enrichir.
D'accord.
Au détriment de la population, surtout.
Alors, Jean.
Mais pourquoi on va refuser de voir la
réalité? Non.
Nous,
Jean.
Jean.
Mais moi aussi, j'entends ce que tu dis. Et ce que tu dis, je l'ai dit il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, à force de toujours dire que celles et ceux qui ont le pouvoir, qu'ils soient économiques, politiques et autres, qui prennent des décisions et qu'on dit s'ils prennent ces décisions qui vont à l'encontre des intérêts du peuple, c'est à cause d'un tel. Même si nous savons quelles sont les ramifications, mais à un moment donné, il faut bien se dire, alors tu peux me dire, non mais on va aux racines du mal. Non, il y a un moment donné où il faut que nous soyons chacun dans son coin, chacun dans son rôle, responsable. Et la responsabilité, c'est de dire, si toi tu prends une décision, je ne veux pas savoir qui t'a dit de prendre cette décision-là, tu es responsable de la décision que tu viens de prendre. Est-ce que tu comprends le sens et la précision que je veux donner à ton argument? Je ne vais pas à l'encontre de ce que tu dis. Je dis juste qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je parle d'infantilisation, il y a un moment donné, on ne peut pas, il faut arrêter que nous puissions dire à chaque fois, oui, mais derrière un tel, il y a ça. Non, moi je vais te dire, si je collabore avec des gens, et si j'ai des gens en face de moi qui prennent une décision, même si je sais que derrière eux, il y a peut-être des gens qui sont là pour investiguer, pour instrumentaliser, je m'en prendrai avant tout à la personne. Je lui dis parce que c'est toi, t'es un grand garçon. Si t'as pris cette décision-là, c'est que tu vas devoir l'assumer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? À un moment donné, Il faut pas, il faut, à un moment donné, moi je crois, après, on peut voir tout, parce qu'après, sinon, on part dans l'analyse politique. On part plus dans l'analyse politique que dans le pragmatisme. Lorsque tu as un problème qui se présente à toi, on règle le problème.
Oui.
On règle le problème en se disant, j'ai réglé ce problème-là. Tu sais, c'est comme quand on dit, on prend le bout de la ficelle et on tire, et en tirant, eh bien, on découvre tout ce qu'il y a derrière. Mais si tu veux aller chercher, tu prends pas le petit bout, c'est compliqué. Mais mon propos n'est pas en opposition au tien. Je dis juste qu'à un moment donné, il va
falloir. Ça ne semble pas que moi aller en droit ligne avec ce que je pense que je dis.
Mm-hmm.
Parce que là, bon, c'est comme pour vous, c'est réellement, c'est comme s'il y a une contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Parce que là, je suis en train de vous souligner le nerf du problème, mais là, vous essayez de me dire qu'en fait, il y a une autre décision qui a été prise par une autorité et qu'on doit la respecter. Effectivement, on doit la respecter. Donc, nous sommes en train de regarder là les racines du problème. La racine vient d'où?
D'accord. Alors,
lorsqu'on veut évoquer le nerf du problème, on a vu, par exemple, Denis Sévran qui a été expulsé dans plusieurs pays, juste pour voir, parce qu'il a essayé de défendre le cran, c'est pas dire le mal à tout le monde.
D'accord.
Et nous n'avons pas encore parlé de l'écho qui arrive, qui ne signifie rien pour nous autres Africains.
Alors,
et
Jean, je te pose une question, Jean, avant de se quitter, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Penses-tu aujourd'hui que le vrai problème de l'Afrique, est-ce le problème de cette, alors Afrique francophone, hein, est-ce le problème de cette monnaie du franc CFA, ou est-ce un problème de mentalité? Alors on pourrait dire les deux, mais c'est très facile de dire les deux. Y a-t-il un problème de mentalité ou juste un problème d'argent? C'est-à-dire que si on change de monnaie, tout ira mieux.
Moi, je pense qu'il y a un problème de souveraineté monétaire.
Uniquement, pas de mentalité.
Il y a d'abord ça qui est en grande partie. Et si on dit mentalité, la mentalité viendra à quoi? On ne va pas quand même tenir les mêmes discours du président américain qui dit
non.
Que ça a besoin des hommes poignants, des hommes...
Non, c'est pas ça. Ah, Jean, je te jure, je suis pas du tout dans ça. Je suis juste en train de te dire, est-ce que les mentalités aujourd'hui des personnes qui peuvent prendre le pouvoir, qui ont le pouvoir, sont les mentalités qui peuvent permettre aux populations, avec un changement de monnaie ou des changements autres, de vivre mieux? Est-ce qu'aujourd'hui on a les hommes et les femmes capables de, je parle de gens qui sont au pouvoir, hein?
Oui. Ces hommes-là existent réellement.
Oui,
ces
bien sûr. Ils ne sont pas au pouvoir.
Aujourd'hui en Afrique.
Ils ne sont pas au pouvoir.
Mais avec nos personnes qui sont au pouvoir, non. Là, je
d'accord, ben voilà.
La mentalité n'est pas pour la cause de la population, mais pour leur égoïsme personnel, quoi.
D'accord. En tout cas, Jean, on s'est compris. C'est juste, tu sais, parfois, je dis, dans tous ces combats-là, il y a des degrés, des niveaux de compréhension. Il y a le moment de la colère, il y a le moment de la haine, il y a le moment de la réflexion, il y a le moment où on se dit, OK, de la stratégie également que l'on emploie. Et je crois que c'est là où il faut qu'il y ait peut-être un jour avec la jeunesse, des assises, que les uns les autres se parlent et aient plus de stratégie. En tout cas, Jean, on a bien compris. T'as vu, on t'a laissé parler jusqu'au bout. Et on parlait de l'expulsion de Nathalie. Et évidemment, l'expression de Nathalie Yamb, pour toi, elle est inacceptable. Oui, non?
Inacceptable, voilà. Inacceptable.
Bon. Merci infiniment, mon cher Jean. Auditeur, leader, génération consciente, on a très bien compris ton propos. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Claudie, merci.
Il m'a fait ça. Oh, c'est presque un titre, un enchaînement facile. Rocky Gold sur RFI.
Il m'a fait ça. Puissant prédateur, il enchaîne les victimes. Il n'a pas de cœur, mais il chante bien l'amour. Il m'a fait rêver sans m'endormir et même debout. Et dans mon esprit, j'étais son seul amour. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il avait beaucoup d'amour. Il m'a largué au moment où ça devenait tout. J'étais folle de lui et il a cassé mon cou.
C'est le titre, il m'a fait ça, Rocky Gold dans Couleur Tropicale, dans la génération consciente, la libre antenne de l'émission qui donne le pouvoir aux musiques d'Africa et de ses diasporas. de l'esclavage, même les plus érudits reconnaissent humblement ne pas tout connaître des crimes perpétrés, des tortures infligées et des histoires extraordinaires, rarement racontées, témoignant de l'exceptionnel désir de liberté des femmes et des hommes enchaînés. Céline de Vlémazurel, merci d'être avec nous, Céline.
Bonjour Claudie.
On te retrouve tous les dimanches sur RFI pour Si Loin, Si Proche, célèbre programme. Avec Laure Allary, vous consacrez trois numéros au chemin de fer clandestin grâce auquel des esclaves ont quitté l'enfer. C'est une histoire méconnue.
Ouais, tout à fait. C'est une histoire méconnue en Europe et ailleurs d'ailleurs. C'est plus connu aux États-Unis, un peu au Canada, et c'est justement là où on est allé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas justement que ce chemin de fer clandestin, qui est donc un réseau abolitionniste et un réseau surtout de fuite et de survie des esclaves vers le nord de l'Amérique, en fait, a eu pour terminus le Canada. Et c'est là où on est allé.
A-t-il été facile justement d'obtenir des archives, des informations sur cette aventure humaine vers la liberté, ce voyage en quête de liberté, pour reprendre l'intitulé de la série ?
Alors, ce qui est compliqué, c'est que les récits d'esclaves, il y en a eu un peu, évidemment, à la fin de l'esclavage en 1865 aux États-Unis, où les gens ont pu enfin parler de ce réseau, parce que c'était un réseau secret. Et puis après, il y a évidemment, on va dire, toutes les histoires personnelles qui ont été transmises oralement, que justement des descendants d'esclaves ont cherché. Et c'est tous ceux qu'on a rencontrés, c'est eux qui portent en fait cette histoire à bout de bras, parce que le Canada n'en parle pas énormément.
Comment tout cela, très vite, sans dévoiler la série, sans dévoiler le prochain numéro de ce dimanche, comment tout cela s'est organisé, ce chemin de fer clandestin vers la liberté ?
Ah, c'est compliqué. Question difficile, Claudie.
Bon.
Alors, on va essayer de faire simple. Comment ça s'est organisé ? En fait, c'est un réseau, évidemment, abolitionniste. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant l'aide des Blancs ou des Noirs libres, mais surtout des Blancs abolitionnistes du nord des États-Unis. Or, en fait, ce qu'on comprend et ce qu'on a vraiment compris au Canada, c'est que c'est surtout un réseau mené, porté par les esclaves eux-mêmes. C'est eux vraiment qui ont fait ce chemin de fer. Parce que souvent, ils fuyaient seuls. Ils avaient peu d'aide, très peu. Et donc, comment est-ce qu'on connaît ce trajet ? Eh bien, en fait, il y a des cartes, mais qui indiquent des distances, qui indiquent des directions vers le nord. Ils suivaient l'étoile polaire. C'était un des moyens de savoir comment aller vers le nord. Ils ne savaient pas forcément qu'ils allaient vers le Canada. Et quand ils rencontraient effectivement des gens qui les aidaient, leur disaient « Va plus loin, monte au Canada, tu peux être libre » puisque l'esclavage a été aboli au Canada en 1834.
2020 sera une année importante en ce qui concerne les personnalités qui ont œuvré afin de tuer la bête immonde de l'esclavage. Je pense à une femme en particulier.
Harriet Tubman.
Ben oui, un film consacré.
La Moïse noire, comme on l'appelle.
Oui.
Alors c'est vrai qu'on la retrouve au Canada parce qu'elle est américaine, c'est une esclave du Maryland qui a fui déjà seule et qui s'est libérée, qui s'est installée au Canada à Sainte-Catherine, qui était sa base arrière en fait, parce qu'après elle était conductrice de chemin de fer, ce qui veut dire qu'en fait elle était passeuse, donc elle est descendue 19 fois, c'est la légende qui dit ça, elle est descendue 19 fois jusque dans les États du Sud, seule, pour aller chercher des esclaves, et elle aura libéré 300 esclaves.
Femme courage, femme exceptionnelle. Céline, rendez-vous ce dimanche sur RFI pour Si Loin, Si Proche, Underground Railroad, donc le chemin de fer clandestin. Dimanche à 2h10, temps universel, là c'est vers l'Afrique, à 12h10, temps universel vers le monde, et à 13h10, toujours en temps universel, toute cible donc sur RFI. Moi je serai à l'écoute en tout cas.
Merci Claudie.
Merci beaucoup Céline. On va retrouver, après on a parlé des États-Unis, on va rester sur le continent américain pour retrouver celui qui nous dit tout sur ce mois qui a été consacré à la conscience noire. Nathanaël Boone Gwaka, merci d'être avec nous.
Bonsoir Claudicia, bonsoir à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Il y a quelques jours, nous avons évoqué avec toi le mois de la conscience noire au Brésil, un hommage à Zumbi, hein, le plus célèbre des chefs d'esclaves marrons, ces Africains, alors les marrons, ces Africains qui se libéraient de l'esclavage, qui se sont réfugiés dans la forêt amazonienne. Ils ont créé des quilombos, des villages d'esclaves, et le plus grand de ces quilombos, le plus célèbre, hein, c'est le Quilombos de Palmarès, qui a été dirigé justement par Zumbi, qui fut après arrêté, exécuté le 20 novembre 1695. Quelle fut l'ambiance de ce mois de la conscience noire dans le Brésil de Bolsonaro, Nathanaël?
Eh bien, la 16e édition donc, de la journée de la conscience noire, ici au Brésil, qui a eu lieu le 20 novembre, mais qui se célèbre tout le mois de novembre, a été marqué donc par plusieurs activités sur tout l'étendue du territoire fédéral du Brésil. Et comme vous avez su le dire, c'est des moments de résistance des populations noires qui réclament, qui luttent contre les injustices et contre toute forme d'inégalité, contre le racisme, et aussi c'est des journées où les Noirs s'affirment autant que populations qui ont les mêmes droits avec toutes les autres populations de couleurs différentes que la couleur noire.
Est-ce que tous les Brésiliens se sentent concernés très vite?
Disons que la population brésilienne est à 51% noire, et donc pas tous les Brésiliens en général sont concernés, mais de plus en plus ou bien les populations blanches modérées s'intéressent à cette cause, et il y a d'autres qui s'allient aux populations noires pour lutter contre toute forme d'injustice, qui essaie de réparer tout ce que l'esclavagisme, la traite des Noirs et l'injustice sur le plan social ont qui a été causée envers les Noirs.
Bolsonaro y a participé, oui, non?
Non. Il est occupé à autre chose.
Nathanaël Mbou Ngwaka, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le Brésil.
Mais si je peux me permettre, l'auditeur, je voulais dire une chose très importante.
Oui.
Et il faut rappeler que pendant ces journées, il y a un professeur de journalisme de l'Université Estadual de São Paulo. Pendant la date même de la célébration de ces journées, il a été poignardé à l'épaule et au bras, et il a été traité de singe. Et pendant qu'il donnait effectivement une conférence sur les libertés des Noirs.
Ben, le chemin est long vers Le respect de l'autre, le respect de la différence, et tous ces épisodes dont on a parlé avec Céline et avec toi de l'esclavage n'ont pas apaisé la haine dans le cœur de certains. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, vous le savez, pour le talk show de Couleur Tropicale. Seize sera notre invité face aux trois chroniqueurs, et ça va être tellement chaud. Merci la famille. Hey, c'est ça, c'est ça. Je peux pas refaire le monde. C'est qu'il y a de l'espoir.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.